Premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire pendant laquelle nous plongerons dans les territoires liquides en traitant des usages de la mer. Mais comme tous les lundis, nous débuterons notre émission par un nouvel épisode de notre feuilleton, La Fabrique de la Guerre Froide, puis nous recevrons en première partie de cette émission Mathilde Larère, qui vient de publier aux Presses Universitaires de France sa thèse consacrée à l'histoire de la Garde Nationale Parisienne, cette milice bourgeoise qui joua un très grand rôle politique et militaire dans la première moitié du 19e siècle. Et puis, en ouverture de notre semaine sur les usages de la mer, Michel Battesti nous présentera l'ouvrage qu'elle a dirigé, La piraterie au fil de l'histoire, un défi pour l'État, publié aux Presses universitaire de Paris-Sorbonne. Mais tout de suite, 31e épisode de notre feuilleton, La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quien. Aujourd'hui, nous partons à Prague faire de l'espionnage.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
are all
directed by this evil power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Récemment, notre gouvernement s'est vu obligé d'interdire les activités de l'Institut français Ernest Denis, qui, sous couleur d'activité culturelle, se livrait à l'espionnage et à une propagande de guerre. Toute l'activité de l'Institut français portait ce caractère. On commençait par prêter des revues répandant une propagande de guerre et l'on finissait par des conférences sur l'art pur. Tout cela dans une même ligne et dans un même but. Éveiller l'admiration pour la pseudo-culture décadente de la bourgeoisie française et, par ce biais, pour les oppresseurs américains. Ainsi, l'an dernier par exemple, quand le monde entier s'indignait du geste de Claudel, poète décadent français, signant l'appel au lancement d'une bombe atomique sur l'Union soviétique et les démocraties populaires, l'Institut français organisait une conférence de l'ambassadeur de France intitulée « Souvenirs personnels sur Claudel ». Derrière une affaire apparemment culturelle comme cet hommage à un ami poète, au lendemain des déclarations de Claudel, se tenait cachée une provocation qui n'avait rien à voir avec la culture et qui fut manifestement politique. Justine Faure.
Donc ce que nous venons d'entendre, c'est la traduction en français d'un article qui est paru le 6 décembre 1951 dans un journal tchécoslovaque, communiste de fait, qui s'appelle Dvorba, et l'auteur est donc un journaliste qui s'appelle Jan Otakar Fischer, et qui dénonce les activités de l'Institut français de Prague, qui a fermé donc quelques mois plus tôt, en mai 1951, et qui explique que cet institut n'avait pas une vocation culturelle, mais une vocation politique, et que l'objectif de cet institut était à la fois d'espionner le gouvernement tchécoslovaque, mais aussi de diffuser une idéologie cosmopolite, je cite, contraire à la ligne du parti. À cette date, décembre 1951, on peut vraiment estimer que le rideau de fer fonctionne le plus efficacement possible, et le rideau de fer est vraiment une frontière imperméable, on va dire à peu près jusqu'en 1955. Alors, le document est intéressant, donc 1951, parce que ça permet un tout petit peu de relativiser les grandes dates traditionnelles de l'établissement de la guerre froide, en expliquant que, en effet, à partir de 47-48, on rentre véritablement dans la guerre froide, on rentre dans une logique d'affrontement, le blocus de Berlin, la condamnation du titisme, les négociations qui vont mener à la signature de l'Atlantique Nord, mais en même temps, on est aussi à un moment où l'Europe l'Europe de l'Est hein, continue d'avoir des liens avec l'Occident. Et je voudrais juste citer une phrase de juillet 1949, hein, lorsque vous avez le directeur du New York Times qui visite Prague et qui, de retour aux États-Unis, explique qu'il est difficile de se souvenir qu'on naît dans un pays communiste, parce qu'à cette époque-là, juillet 1949, on a encore les radios occidentales qui sont audibles en Tchécoslovaquie, la voix de l'Amérique ne sera brouillée qu'en août 1949. On a des revues occidentales qui sont publiées, donc notamment cette fameuse revue du département d'État qui publie en mai 1949 une version tchèque de America. On a aussi des relations commerciales et par exemple en 1949, la Tchécoslovaquie est toujours membre du GATT et du FMI et a des relations commerciales avec la Yougoslavie alors que le schisme titiste a eu lieu un an auparavant. Et puis, il y a donc toujours ces instituts culturels qui fonctionnent parfois avec difficulté, il y a moins de personnel, il y a une surveillance qui est exercée, mais il est toujours possible d'aller dans les bibliothèques américaines gérées par l'ambassade américaine, il est possible d'aller prendre des cours de français ou voir des spectacles ou assister à des conférences dans l'Institut français de Prague. Et juillet 1949, c'est aussi le moment du basculement, c'est-à-dire qu'à partir de l'été, l'automne 1949, on rentre dans une logique d'éradication de l'influence occidentale qui va se manifester au niveau gouvernemental par l'arrivée des fameux conseillers soviétiques hein, qui progressivement vont investir les organes de sécurité des démocraties populaires, l'armée, le complexe militaro-industriel. Et puis, c'est aussi le moment où les représentants des pays occidentaux sont progressivement expulsés de ces pays. Donc, par exemple, en 1951, pour reprendre toujours l'exemple tchécoslovaque, les journalistes de la BBC ou du New York Times vont être expulsés de Tchécoslovaquie. Les bibliothèques gérées par l'ambassade américaine, elles aussi, vont être fermées jusqu'à arriver à cette fermeture, donc en mai 1951, de l'Institut français. Et quelques jours avant la fermeture, donc en avril 1951, l'ancien directeur de cet institut français, qui était aussi attaché culturel auprès de l'ambassade française, va écrire à l'ambassadeur en expliquant qu'il renonce à sa citoyenneté française et qu'il prend la citoyenneté tchécoslovaque tellement il est choqué par les activités d'espionnage menées par l'Institut français. Et donc évidemment, les autorités tchécoslovaques vont faire une grande publicité autour de cette défection. Donc on oublie parfois qu'il y a eu aussi des exilés français en Tchécoslovaquie et pas seulement des exilés tchécoslovaques anticommunistes en France. Et donc cette grande campagne autour de la défection de cet ancien directeur de l'Institut français va être le dernier acte de cette donc, campagne contre l'influence occidentale et donc qui amène à cette fermeture en 1951.
Voilà pour ce 31e épisode de ce feuilleton La Fabrique de la Guerre froide qui, depuis le mois de septembre, eh bien, nous permet d'avancer progressivement dans cette guerre froide chronologiquement. Si vous voulez télécharger ce feuilleton d'aujourd'hui ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture. Il y a une page qui est dédiée justement à ce feuilleton La Fabrique de la Guerre froide. Bonjour Mathilde Darrère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la publication de votre thèse. Alors évidemment, remaniée, retravaillée. Bien plus, j'imagine, condensée qu'elle ne l'était lorsque vous l'avez soutenue. Elle s'intitule « L'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848 » et ça paraît au PUF. Et c'est un livre extrêmement roboratif pour pouvoir comprendre ce qu'a été cette période souvent, disons, peu connue entre la Révolution française et la Révolution de 1848, une période de transition, période de doute, passage évidemment par l'Empire, la Restauration, et surtout, puisque c'est ce sur quoi vous vous attardez dans votre livre, surtout cette période de Louis-Philippe, donc cette monarchie bourgeoise qui se dote donc de cette garde nationale qui n'est pas une invention de Louis-Philippe, mais qui existait sous la Révolution française pour pouvoir à la fois se légitimer, protéger l'ordre public, mettre à l'écart les mouvements sociaux les plus prolétaires et tout cela. Donc c'est Louis-Philippe qui le fait. Il faut peut-être expliquer au départ qu'il y a un nom qui revient souvent, c'est celui de Lafayette, puisque c'est à la fois le fondateur de cette garde nationale, et puis c'est celui qui tentera de la reprendre à plusieurs reprises, y compris sous Louis-Philippe, Mathilde Larrère.
Oui, effectivement, on le voit pas très longtemps puisque il n'est là qu'en 1830. Hein, après, il se fait assez vite éliminer. Mais c'est tout à la fois celui qui l'a dirigé en 1789 et qui en reprend la direction en 1830 en essayant d'en faire une garde nationale plutôt démocratique, plutôt populaire, ce qui n'est pas ce que veut en faire le régime de Juillet. Ce qui explique d'ailleurs que le régime de Juillet le pousse à la démission, car l'objectif qu'il a dans la création de cette garde n'est pas du tout celle du régime qui veut contrôler la garde nationale, alors que lui est plus près du modèle original de souveraineté en armes.
Alors vous avez été précédé dans ce travail sur la garde nationale par Louis Girard, par Roger Dupuis, qui ont travaillé surtout sur pour Roger Dupuis sur la garde nationale du temps de la Révolution française. Il faut peut-être expliquer qu'un des débats, c'est d'essayer de comprendre si cette garde prend le relais de ces milices civiques ou ces milices communales qui étaient en place à la période médiévale ou à la période moderne, ou est une innovation, quelque chose d'extrêmement neuf, dû à la Révolution, justement, puisqu'il s'agit de bourgeois en armes, donc de bourgeois que l'on arme pour pouvoir protéger le mouvement révolutionnaire dans la première partie de cette Révolution. C'est quoi exactement cette garde nationale et qui en fait partie pendant la Révolution française et ensuite en 1830-1848, qui est votre période, Mathilde Larrère?
Alors c'est évidemment, ça peut plonger ses racines dans les milices de l'époque médiévale, mais c'en est absolument le dépassement révolutionnaire. Parce que la garde nationale, avant de dire que c'est une milice bourgeoise, c'est une milice citoyenne. Sauf que le problème, c'est que pendant tout au long du 19e siècle, à des moments, on a réduit la citoyenneté sur des critères censitaires et donc n'était citoyen au sens d'électeur que ceux qui payaient un certain niveau d'impôt, donc les bourgeois. Mais à la base, l'idée de la garde nationale, c'est une milice citoyenne. Donc c'est surtout ça qui est en jeu. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi l'urne et le fusil. C'est l'articulation permanente entre le droit de vote et le droit de se défendre, mais aussi de défendre les libertés fondamentales. Donc c'est ça qui est au cœur de la garde nationale. C'est le refus de laisser le monopole de la violence légale à l'État, c'est la nécessité de faire de l'ordre public quelque chose que l'on négocie et dans lequel les citoyens ont quelque chose à dire, c'est la nécessité d'assurer tout à la fois le droit de sûreté, c'est-à-dire pas seulement les biens et les personnes, mais la défense des libertés individuelles, mais aussi de donner la possibilité du droit d'insurrection, parce que la garde nationale, à plusieurs reprises, se retourne contre le pouvoir.
Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut dire déjà un chiffre, 50 à 60 000 personnes qui sont mobilisées dans cette garde nationale parisienne, simplement parisienne, parce qu'il y en a d'autres qui sont réparties sur le territoire national, 50 à 60 000 personnes, parce qu'il faut environ 650 personnes en permanence dans tous les commissariats, dans toutes les mairies d'arrondissement, il y en a 12, et que ces 650 personnes eh bien, doivent être renouvelées parce qu'elles ont un métier par ailleurs et elles ne sont pas simplement des policiers ou des militaires au service du pouvoir, Mathilde Larrère.
Oui, effectivement, en fait, à partir du moment où on payait l'équivalent d'un franc d'impôt, on devait servir dans la garde nationale sous la monarchie de Juillet, parce que les critères de recrutement changent d'un régime à l'autre.
Vous le racontez tout le temps, ça, oui.
Oui, c'est vrai, parce que elle passe son temps à s'ouvrir et à se fermer. En 48, elle est ouverte de façon complètement démocratique, alors que sous la Restauration, elle était très fermée, il n'y avait que 17 000 hommes. Donc ça dépend des périodes. La monarchie de Juillet étant une période intermédiaire, on descend quand même assez bas hein, dans les classes populaires avec simplement un franc d'impôt. Et tout homme, à partir du moment où il était capable de marcher et d'ouvrir une cartouche avec ses dents, donc les édentés par exemple étaient exemptés, mais tout homme devait le service de la garde nationale. Donc ça ne pouvait pas trop peser sur lui parce que c'était des gens effectivement qui travaillaient. Donc à peu près un homme faisait un service une fois tous les mois et demi régulièrement. Mais ça, c'est un choix de la monarchie de Juillet. C'est le seul régime qui va tout au long maintenir une garde nationale dans Paris. Ailleurs, soit elle tombe en désuétude, soit elle est dissoute. Mais à Paris, il y a cette volonté absolument de maintenir cette milice citoyenne.
Anaïs Quien.
Il y a quelque chose de très saisissant dans votre ouvrage, mais de l'arrière, c'est de voir aussi comment la monarchie de Juillet va tenter de négocier avec les symboles, c'est-à-dire avec ce symbole, ce spectre du peuple, c'est-à-dire ce peuple. En fait, on ne sait jamais de quoi on parle véritablement.
Jamais.
Et aussi l'héritage révolutionnaire. Finalement, réinstaurer une garde nationale, c'est s'inscrire dans une forme d'héritage. Et pareil, à cet endroit-là également, on ne sait pas trop de quel héritage on parle. Alors peut-être qu'on va commencer par le début, par cette notion de peuple. C'est-à-dire que quand advient, il y a d'assez belles images d'ailleurs dans vos textes, quand advient la garde nationale, finalement, c'est la révolution, le spectre de la révolution qui réapparaît dans la rue.
De toute façon, 1830, c'est le retour de 89. Mais ce que disent à peu près tous les commentateurs libéraux de l'époque, faut que ce soit 89 sans 93. Donc c'est le peuple sans les classes populaires, en fait. C'est ça qui est très spécial dans la monarchie de Juillet, c'est qu'elle va mobiliser les images révolutionnaires du peuple, mais en expurgeant quelque part le peuple de ses classes les plus populaires. Elle rêve un peuple qui soit un peuple finalement contrôlable, et la garde nationale sert à ça, en fait.
Elle a été éliminée depuis 1827, donc la toute fin du régime de la Restauration, et d'une certaine façon, elle participe de la restauration, de l'arrivée sur le trône de Louis-Philippe. Certains républicains auraient préféré que la République advienne plutôt que ce régime donc de Louis-Philippe. En tout cas, il va avoir à cœur de à la fois de la maintenir parce que c'est elle qui, d'une certaine façon, le légitime dans son caractère de souverain révolutionnaire, et en même temps de la limiter, cette garde nationale, parce que il ne faudrait pas qu'elle prenne des aises et qu'elle devienne trop dangereuse pour son propre pouvoir.
Oui, Louis-Philippe, c'est un roi qui manque de légitimité. Il ne peut pas se prévaloir de la légitimité des rois d'Ancien Régime et de ce qu'avaient pu mobiliser les frères de Louis XVI revenus au pouvoir. Donc il n'a pas de légitimité dynastique sérieuse, pas de légitimité religieuse. Et il n'a pas vraiment de légitimité populaire, puisqu'il n'est pas non plus élu, ou c'est pas non plus un Bonaparte d'une certaine façon.
Donc il va falloir qu'il bricole beaucoup.
Il va falloir qu'il bricole, et il va bricoler avec la garde nationale. En fait, se servant de la renaissance de la garde nationale pendant la révolution de 1830, il va en faire finalement l'incarnation et la représentation du peuple révolutionnaire, ce qu'elle n'est pas, parce que la garde nationale n'a pas reparu dans les rues de Paris pour combattre et renverser Charles X, mais pour sauver les biens dans un réflexe de défense du voisinage et des propriétés. Mais il va en faire l'incarnation du peuple révolutionnaire, et ensuite la mettre en scène dans les solennités où la garde nationale l'acclame, et après il peut s'en servir pour dire voilà, j'ai une légitimité populaire. Et pareil dans les meutes.
Bel exemple de manipulation d'image, pourrait-on dire. Guizot, dans ses mémoires, qui n'est pas très favorable à cette garde révolutionnaire et cette garde nationale, dit la garde nationale de 1830, au tout début, satisfait tout le monde. Les amis de l'ordre se promettent d'y trouver la force pour le maintenir. Les libéraux y voient la défense des libertés. Les démocrates il voit avec joie le peuple armé et mis en état d'intervenir dans les affaires publiques. En gros, c'est d'un cynisme absolu, mais c'est de se dire tout compte fait que ça sert de bon symbole pour à peu près tout le monde dès 1830, mais ça ne durera pas très longtemps, Mathilde Larrère.
En 1830, oui, mais surtout qu'en plus en 1830, Guizot, lui, essaie de la limiter quand Lafayette essaie au contraire de l'ouvrir. Donc là, il y a un conflit très important entre Guizot, qui est à la tête de l'intérieur à cette période, et Lafayette, qui est à la tête de la garde nationale, chacun ayant des conceptions très différentes. Et donc, ils s'opposent, et Guizot veut faire de la garde nationale une force de l'ordre contrôlable, ce qu'il parviendra d'ailleurs à faire à l'aide de Casimir Perier peu après.
Anaïs Kien.
Oui, vous interrogez ce symbole pour voir s'il fonctionne, et ça pose directement la question aussi de savoir comment cette garde nationale est accueillie simplement par la rue, en dehors de ces hommes politiques, en dehors des discours politiques dans lesquels on utilise la garde nationale. Finalement, est-ce qu'on arrive à percevoir le rapport de la garde nationale avec simplement les habitants de Paris ?
Oui, en 1830, elle est très bien accueillie, parce que de toute façon, il faut voir que le fait de servir dans la garde nationale, ce qui veut dire le fait d'avoir le droit d'avoir des armes, cette possibilité, c'est un droit du peuple, d'une certaine façon, ça a été très intensément vécu au 19e siècle, et c'est même en fait souvent un critère de citoyenneté bien supérieur à celui du vote. J'en tiens pour preuve que les femmes, pendant la Révolution française, et on retrouve ça en 1830, en 48 même sous la Commune, ont parfois plus demandé de servir dans la garde nationale et d'avoir ce droit de porter des armes qu'elles n'ont demandé le droit de vote. Donc cette garde nationale, elle est vécue comme un symbole et une forme de citoyenneté et d'émancipation.
On peut s'interroger sur peut-être ceux qui sont à la lisière censitaire, ceux qui sont à la limite de pouvoir avoir accès à cet honneur, à ce prestige de la garde nationale, et qui, eux, peut-être, reçoivent ce symbole de manière plus violente que d'autres qui en rêvent, simplement.
Alors, en 1830, ils arrivent à rentrer, parce qu'en fait, justement, sous l'égide de Lafayette, un certain nombre de prolétaires, le terme existe déjà à l'époque, hein, mais ne désigne pas ce qu'il va désigner par la suite, rentrent dans la garde nationale. Cela dit, cette image très positive, elle passe assez vite, parce qu'à partir du moment où elle va être, justement, contrôlée par le pouvoir, transformée en milice plus bourgeoise et surtout utilisée dans le maintien de l'ordre, plus musclé.
1832, 1834, voilà. 1839.
En plus, comme c'est des mauvais soldats, ils sont très violents. Hein. Les gardes nationaux sont des gardiens de l'ordre extrêmement désagréables. Il y a toute une série de gravures, qu'on appelle ça la grippe, où on voit des gardes nationaux qui tapent sur les femmes, les enfants, enfin, une violence d'État. Donc là, elle est beaucoup moins acceptée. Et puis, c'est quand même assez lourd comme service au bout du compte. Même si c'est qu'une fois et demie par mois, au bout d'un moment, même les bourgeois en ont un peu assez. Hein.
Oui, alors les républicains n'en auraient pas assez s'ils arrivaient à rentrer à l'intérieur de cette garde nationale pour pouvoir la détourner de son but orléaniste. Et vous expliquez qu'au tout début de la Révolution, en 1830, effectivement, eh bien, les républicains qui auraient préféré voir arriver un régime républicain, eh bien, vont tenter de rentrer, en particulier dans l'artillerie. Alors, on voit dans l'artillerie, des Arago, on voit des Dumas et d'autres qui tentent, Alexandre Dumas, qui tentent de rentrer dans l'artillerie, mais très rapidement le pouvoir s'en aperçoit et va supprimer cette artillerie parisienne dès 1831 parce que, effectivement, posséder l'artillerie, c'est la possibilité de faire un coup d'État contre le roi, Mathilde Larrère.
Oui, ils y rentrent et ils y parviennent parce que l'artillerie est le seul décor de la garde nationale qui ne soit pas territorialisé. Partout ailleurs, un des moyens qu'a trouvé le pouvoir pour éviter que les opposants se rassemblent dans une compagnie, c'est de faire coïncider une compagnie avec un quartier. Donc, à moins que tous les républicains déménagent dans le même quartier, ils ont du mal à dominer une compagnie. En revanche, l'artillerie est le seul corps où on peut se rassembler dans une batterie sans avoir des impératifs de domicile. Donc, malins, ils vont tous se mettre dans deux batteries. Il y a quatre batteries à l'artillerie, une qui est plutôt orléaniste, d'autant que le duc d'Orléans, donc le fils du roi, est dedans, et les deux autres qui sont complètement républicaines, qui s'appellent d'ailleurs la batterie du peuple, et la quatrième qui est entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de médecins, c'est pour ça qu'on l'appelle la meurtrière, parce que la médecine a mauvaise réputation à cette époque, mais beaucoup de ces républicains, comme Raspail par exemple, de ces médecins sont aussi républicains. Donc l'artillerie est le corps des républicains, et lors du procès des ministres, de fait... En décembre 1830, le pouvoir craint que l'artillerie ne se serve de ses canons contre le pouvoir. Mais ils vont réussir par la suite à s'y réinstaller assez régulièrement.
Voilà, c'est ça. Donc il y a des aléas tout au long des années de Louis-Philippe. On voit Girardin qui s'affole. Ce serait une folie, dit-il, si éprise de je ne sais quel principe démagogique, la société donnait follement des armes et des droits à ses ennemis, si elle laissait entrer les prolétaires dans la garde nationale. Donc on voit effectivement ce moment de reflux après l'exaltation révolutionnaire. Reflux donc et conservation d'une garde qui va donc devenir beaucoup plus légitimiste, pourrait-on dire, vis-à-vis du pouvoir en place. Et puis, exaltation néanmoins dans des grandes fêtes, ça ne durera pas très longtemps non plus, sur les boulevards qui deviennent le lieu des commémorations, en particulier des journées de juillet, où la garde nationale va être avec la ligne, donc un des grands moments d'exaltation, pourrait-on dire, du patriotisme Louis-Philippe a.
Oui, parce que, en fait, Louis-Philippe essaie de refaire ce que j'appelle la scène du balcon. C'est-à-dire qu'au tout début de la Révolution de 1830, pour se faire accepter, Louis-Philippe est allé à l'hôtel de ville, a rencontré Lafayette et dans les plis d'un drapeau tricolore, s'est fait acclamer par la foule révolutionnaire sur la place de Grève.
Voit un très beau tableau à Versailles, justement, voilà. Qui exalte ce moment-là.
Oui, parce que c'est fondateur pour lui. Voilà. C'est le moment où, justement, il dépasse son manque de légitimité. Et donc, il a besoin de le revivre, de le refaire en permanence. Et la garde nationale lui sert à ça, puisque la garde nationale, c'est à la fois une force de l'ordre contrôlable, plus ou moins, hein, ça va lui échapper, mais c'est l'incarnation du peuple révolutionnaire. Donc en se faisant acclamer sur les boulevards au cœur de Paris, le roi des barricades, c'est ainsi qu'il s'auto-désignait, arrive à rejouer cette légitimité. Mais de fait, ça va, comme ces manifestations se passent de plus en plus mal et que la garde nationale s'autorise lors de ses revues à avoir des cris séditieux, la grande cérémonie de solennité et de relégitimation se transforme en fait en remise en cause dangereuse. Le pire étant en 33 où ça se passe très très mal.
Et puis le pire étant en 35 avec le 28 juillet 35, l'attentat de Fieschi, il réchappe en l'occurrence Louis-Philippe, mais effectivement il y a donc un moment de panique, pourrait-on dire, du pouvoir. Désormais on ne se montrera plus, on va se renfermer dans ses palais et on va ne plus faire ses grandes manifestations publiques sur les boulevards avec la proximité, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que voulait Louis-Philippe. La proximité avec le peuple, la proximité avec le peuple de Paris. Mais là, effectivement, 18 morts, je crois, à l'attentat de Fieschi. Et donc, à partir de ce moment-là, on va à nouveau se barricader, pourrait-on dire, dans ces palais. Et la garde nationale va donc progressivement, tout au long de ces années 1848, fluctuer entre, jusqu'en 1848, entre tentation sécuritaire et volonté de réforme, avec des républicains qui y entrent, expliquez-vous, pour pouvoir tenter de la gauchir. Ça ne marche pas très très bien non plus, Mathilde Larrère, puisque généralement, il y a une reprise en main.
Ce qu'arrivent à faire les Républicains à Paris, c'est moins de s'implanter dans la garde et de la diriger que de la politiser. Et là, c'est leur grande réussite. C'est-à-dire que le régime avait voulu créer une force qui le serve dans sa légitimation, mais en refusant véritablement d'en faire une force politique. Justement, la loi aussi interdit de délibérer sous les armes, etc. Sauf que la loi de 1831 a quand même permis aux gardes nationaux d'élire leurs officiers. Et ces élections qui, dans la première partie du règne, sont assez peu politiques, intéressent assez peu les journaux et pas tellement les Parisiens, deviennent dans la seconde moitié, sous l'influence des Républicains, des temps forts de la vie politique du régime. Et ouais. Ça, c'est la grande réussite des Républicains.
1839, tout citoyen ayant le droit de faire partie de la garde nationale doit être électeur, tout électeur doit être éligible. C'est une sorte de mot d'ordre, puisqu'on a le droit d'élire ces élites à l'intérieur de la garde nationale, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit d'élire ces élus. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un travail souterrain qui se fait, et vous dites qu'à la veille de la révolution de février 48, la garde nationale compte un petit noyau de compagnies républicaines, mais tout de même en nombre assez limité, même s'ils ont gagné en partie la bataille des idées, Mathilde Arrère.
Ils ont gagné la bataille des idées, de l'interprétation, parce que le pouvoir a peur de la garde nationale à la fin... À partir des années 45, il n'a plus confiance, ne cherche plus à la réunir, la contrôle, donc ils ont gagné. Quand je parle de compagnie républicaine, c'est quand les officiers sont républicains. Mmh. Cela étant dit, il y a des républicains dans la garde un peu partout. Et si tous les officiers, enfin s'il n'y a qu'une quinzaine d'officiers républicains, ça ne veut pas dire que les autres capitaines soient gagnés au régime orléaniste. Preuve en est qu'en 48, la garde républicaine laisse passer la révolution et empêche d'ailleurs la répression de plusieurs débuts de révolution en 48.
Et on pourrait juste se poser une question, quand on vous lit jusqu'au bout, vous demandez pourquoi, après la Commune en particulier, cette forme de maintien de l'ordre, cette forme de participation civique au maintien de l'ordre disparaît. C'est vrai que c'est une spécificité de cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête au bout du compte, Mathilde Larrère? C'est la montée en puissance de l'État qui, d'une certaine façon, a embrigadé. Vous expliquez en ouverture de votre livre tous les travaux d'Arnaout, tous les travaux de Quentin de Lermoz ou d'autres qui travaillent sur ces questions-là. Qui, d'une certaine façon, a restreint le territoire de ce type de maintien de l'ordre et de légitimité dans le maintien de l'ordre.
Oui, et puis c'est la montée de la démocratie représentative, c'est-à-dire que le garde national, c'est une figure du citoyen qui est à la fois donc l'électeur, celui qui porte des armes, un acteur de la cité. Or, au fur et à mesure qu'en combattant les formes de démocratie directe, c'est très net en 48 et ce sera net après la Commune, on réduit finalement le citoyen à simple déposant de bulletins dans l'urne. Eh bien, cette part armée qui était qu'incarnait le garde national, on ne peut pas la supporter. Donc, la garde nationale a été une des résistances à la démocratie représentative et quand elle s'impose, le garde national est supprimé.
Dites-moi, je crois que vous avez fréquenté pas mal ces temps-ci le côté de la place de la République. On peut raconter dans ces universités populaires, vous avez entendu raconter des choses comme cela, justement, cette histoire-là, telle que vous nous la racontez aujourd'hui, et donner en conférence pour le public qui se trouve là, en l'occurrence, dans cette université populaire ouverte qui s'y trouve, place de la République.
Le principe de l'université populaire, c'est qu'il y a des intervenants qui viennent présenter leur savoir, partager souvent ce qui est du domaine de la passion, hein, pas simplement du métier. Et ensuite, effectivement, il y a tout un temps très long de partage des savoirs, de questions. On n'est pas dans une optique de cours, on est vraiment dans une optique où chacun apporte ce qu'il sait, discute, ouvre le débat. Et donc, oui, effectivement, on a pu parler de la garde nationale, on a parlé des révolutions, on se demande cet après-midi à quoi rêve le peuple. Donc c'est un grand espace de circulation, d'échange, de partage et de construction commune des savoirs.
Anaïs Kien.
Moi j'ai assisté à une conférence très intéressante sur la notion de bien commun par Guillaume Calafa, il y a une semaine je crois, le week-end dernier il me semble. Il faut passer à ces jardins, comment ça s'appelait au début, on appelait ça
le jardin des savoirs, mais maintenant c'est l'université populaire ou éducation populaire debout, puisque... Et c'est toutes les après-midi sur la place de la République.
Merci Mathilde Darrère. Donc l'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848 vient tout juste de paraître aux presses universitaires de France. De la bande originale de Barbe d'Or et les Pirates, un des très nombreux films de pirates qu'on a pu voir dans les années 90 pour nous introduire à notre sujet donc de la semaine, à savoir les usages de la mer, la plongée en territoire liquide, avec le livre que vous avez dirigé, Michel Battesti, bonjour, La piraterie au fil de l'histoire, un défi pour l'État aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Alors, on a appris la semaine dernière le jugement, donc la condamnation à 6 et 15 ans de prison pour les 7 accusés du procès du catamaran donc qui avait été détourné en Somalie, le Tribal 4, donc avec Christian Colombo qui avait été tué sur ce bateau en septembre 2011. On l'apprend aujourd'hui, donc cette semaine, mais cela nous ramène au début de cette histoire que vous racontez dans votre livre collectif, puisque ce sont cette question des pirates somaliens qui vous a poussé en tant qu'historien, historienne et spécialiste du droit en particulier, du droit de la mer, à vous rassembler, c'était en 2012 je crois, à La Rochelle pour un grand colloque qui a donné ce livre, en l'occurrence Michel Battesti.
Absolument, et c'est pour essayer de regarder dans le passé si on avait des leçons à tirer et si il y avait une généalogie de la piraterie. Nous avons fait une approche très pluridisciplinaire, hein, que ce soit effectivement du droit, des historiens, mais aussi des armateurs, des hommes qui sont sur la mer, les syndicalistes, etc. Enfin, je veux dire, c'était très très large. Mais bon, un mot sur ce procès-là du Tribal 4. Ça laisse toujours un petit peu, on est toujours un petit peu gêné quelque part. Alors d'une part, effectivement, il y a eu mort d'homme, il y a eu prise d'otage hein, de cette femme qui a été délivrée par la marine d'ailleurs espagnole. Hein. Ce ressortissant français, bâtiment français, jugé en France. C'est vrai que c'est là où peut-être ça coince un peu. On se dit, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils soient jugés sur place? Là, on sait qu'il y a parmi eux, il y en a un qui est devenu schizophrène hein, en prison, c'est-à-dire qui a souffert du syndrome de la prison. Il faut voir là le drame qui a été que pour ces hommes, tout d'un coup, de se retrouver dans un univers totalement alors carcéral, en France, parlant pas la langue, mangeant pas ce qu'on mange d'habitude, etc. Donc il y a un problème là, et on peut se demander pourquoi il faudrait pas, par contre, les juger sur place. Quoi.
Oui, c'est d'ailleurs une des questions que vous posez dans ce livre, effectivement, ce droit particulier qui permet à un moment ou à un autre d'aller chercher des personnes à l'autre bout du monde, du moment que certains de ses propres ressortissants sont engagés dans un conflit de ce type et de les ramener chez soi pour pouvoir les juger. Anaïs Kien.
Oui, ce qui frappe dans l'introduction de votre ouvrage, que vous signez d'ailleurs, Michel Battesti, de cet ouvrage que vous dirigez, c'est la capacité d'étonnement des fêtes piraterie. C'est-à-dire que depuis des siècles, on nous annonce qu'on a enfin éradiqué la piraterie, et puis en fait, ça n'est jamais le cas. Et vous proposez quand même un repère chronologique sur lequel vous insistez, du début à la fin, c'est celui de la fin de la guerre froide, qui finalement a vidé les eaux de patrouilles, d'une vigilance qui depuis n'a jamais été remplacée.
Voilà, c'est-à-dire qu'il manque une juridiction internationale réelle, une police internationale pour éradiquer la piraterie. Actuellement, par exemple, je n'aurais pas repris ce sujet, la piraterie, et maintenant, ça y est, on a baissé d'intensité.
Oui, c'est incroyable parce que ça dure en 4-5 ans, on n'a parlé que de ça.
Mais c'est toujours comme ça. La piraterie, c'est pour ça que c'est amusant. On peut refaire toute l'histoire de maritime depuis les origines à travers le prisme de la piraterie. On verra, ce sont des cycles. C'est jamais, ou alors c'est une piraterie, je dirais ce qu'on appelait naturelle, c'est-à-dire finalement des populations qui sont nomades et puis qui pratiquent la piraterie d'opportunisme, etc. Là, dans le cas de la piraterie somalienne, vous avez trois foyers actuels qui sont pas complètement éradiqués, hein, qui sont redevenus à bas bruit et qui existent, je dirais presque depuis la nuit des temps, c'est l'Asie du Sud-Est, tout simplement parce que vous avez des îles, vous avez des endroits où il faut obligatoire donc de passer, donc automatiquement ça crée un stress. Vous avez, alors ce qui était avant, je dirais, c'était pas la mer Rouge, c'était plutôt le golfe Persique, vous aviez la côte des pirates, hein. Il y a eu en 1853 un accord avec la Grande-Bretagne pour éradiquer cette piraterie, et finalement c'est sur la corne de l'Afrique, c'est-à-dire finalement sur la mer Rouge, parce que c'est l'ouverture vers le canal de Suez, et c'est un des axes majeurs du commerce international. Et le troisième foyer, c'est le golfe de Guinée. Alors, le golfe de Guinée, on l'oublie, mais au XVIIIe siècle, c'était le chemin, c'était la route des pirates, hein, venaient des Antilles, passaient, faisaient la, il faut bien le dire, le commerce d'esclaves, puis partaient vers les côtes de Malabar, ravageaient l'océan Indien et repartaient vers la piraterie. Et là, ce qui est étonnant, c'est que on a recommencé quelque chose avec le pétrole. Donc, il faut jamais oublier que tout ça est lié au flux et
au commerce mondial.
Au commerce mondial.
Anaïs Quin.
Oui, vous avez bien resitué ces points chauds de la piraterie traditionnelle qui ne varient pas tellement finalement, Michel Battesti, et aussi ces cycles de piraterie qu'on a connus. On connaît des épisodes de piraterie, et puis tout à coup cela s'en va, et puis tout à coup on est toujours étonné de voir réapparaître des événements, des actes de piraterie, toujours dans ces mêmes lieux. C'était quand même très étonnant. Mais si on maîtrise aussi bien ces cycles de piraterie historiquement, on devrait pouvoir savoir comment épuiser ces filières de piraterie également.
Je vais juste vous demander, est-ce qu'on peut, on a éradiqué la criminalité à terre? C'est quelque chose de bon sens, mais je veux dire, je vois pas pourquoi en mer il y aurait pas des malfaisants et des criminels. Je veux dire,
non, mais
voilà.
Vous proposez des pistes quand même très très claires. Après, les pays, les nations, les gouvernements ont à leur choix de se saisir des solutions qu'on connaît ou non.
Oui, absolument. La grande caractéristique de la piraterie, c'est d'avoir quand même suscité une législation universelle. Hein, c'était l'ennemi public de tous. Hein,
c'est comme ça que Cicéron l'appelait.
Voilà, comme ça Cicéron. Alors Cicéron l'appelait ainsi, ça n'a pas été dans le droit romain, hein, parce que Cicéron, bon, il racontait ce qu'il voulait, mais enfin le droit romain n'a pas changé. Par contre, les juristes médiévistes ont repris cette formule, et puis peu à peu, on l'a montée jusqu'à arriver à dire c'est l'ennemi du genre humain, carrément.
Donc, vous dites que à Paris 1945, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, on a peut-être une autre échelle de ce qu'est l'ennemi du genre
Eichmann,
humain.
Pirate, voilà. Ça n'allait plus du tout. Donc du coup, le droit s'est modifié. Et maintenant, c'est carrément à partir donc déjà 1858, puis ensuite de Montego Bay en 1982. Eh bien, c'est devenu tout simplement droit commun. Hein, et encore avec quelque chose de particulier. C'est qu'on est pirate qu'en haute mer, c'est-à-dire jusqu'à la ligne de démarcation avec les eaux territoriales. Quand vous passez dans les eaux territoriales, c'est de la compétence des États souverains, et donc ce n'est plus de la piraterie. Donc c'est quand même particulier. Hein. Alors il y a une quelque chose qui ressemble à du droit de suite. Mais enfin, tout de même, c'est très, très spécial. Vous changez de statut juridique de part et d'autre de la ligne.
Alors, ce que vous expliquez bien avec tous ceux qui participent à votre livre, au livre que vous avez dirigé, La piraterie au fil de l'histoire, qui avait participé à ce grand colloque de La Rochelle en 2012, c'est qu'en fait, effectivement, chaque période a donné lieu à des types de piraterie différentes, mais surtout que la piraterie a modelé, d'une certaine façon, les mentalités, mais aussi les façons de vivre. Pouvait-on vivre sur les rivages si l'on était menacé de piraterie? Je crois que c'est Daniel Mattonnet qui dit dans un des articles que si Londres et Paris sont là où ils sont, Londres d'un côté et Paris de l'autre, et que les capitales sont à l'intérieur des terres, c'est justement parce qu'on ne pouvait pas mettre de capitale trop près du rivage, parce qu'on était trop en risque d'être attaqué par les pirates. Et donc, d'une certaine façon, cela a modelé à la fois les mentalités, mais aussi les modes de conception du pouvoir. Pourrait-on dire, Michel Battesti.
Exemple, même en Chine, la pression de la piraterie japonaise, entre guillemets, des wako, a obligé les populations à se retirer du littoral, parce qu'elles étaient constamment attaquées, pillées, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas que la piraterie pour la justifier Londres et Paris.
Bien sûr,
il y a tout simplement les États et les guerres qui ont
progressé.
Donc tout ça. Le problème de la piraterie, c'est que ça laisse pas de traces.
Oui. Pour l'historien, c'est pas pratique.
C'est pas pratique.
Ça laisse pas de traces et pourtant ils ont nécessairement besoin d'une base arrière pouvoir écouler leur butin, pour pouvoir se ravitailler, être en sécurité parfois malgré tout.
Donc d'abord pour la sécurité, ils ont souvent privilégié les îles. Parce que c'est difficile à maîtriser les îles. Il y en a des tas qui ont servi à ça. Et puis j'ai perdu le fil.
La façon, c'est d'avoir à la
fois
les bases arrières.
Voilà. Donc c'est le mot clé pour les pirates, c'est les réseaux. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de piraterie. Que ça soit maintenant ou dans le passé. Parce qu'il faut écouler la marchandise. Quand on a pris des gens en otage, il faut avoir les rançons. Donc il faut tout un système. Les barbaresques avaient par exemple, il y avait des communautés religieuses qui étaient spécialisées dans la négociation des trinitaires, dans la négociation des rançons. On retrouve exactement les choses maintenant avec les avocats, etc. en Somalie. Enfin, je veux dire, ça crée tout un commerce autour
d'intermédiaires
autour de la piraterie. Donc, et s'il n'y a pas de réseau, si du jour où, par exemple, vous avez quand même, j'ai dit, il y avait 3 foyers de piraterie, mais il y a des endroits où il n'y a plus de piraterie. Mmh. La Méditerranée, le dernier fait de piraterie, je crois que c'est 1924, quelque chose d'assez tordu, qui a été considéré comme de la piraterie, mais non, qui ne le serait peut-être pas. Et puis, par exemple, dans l'Europe du Nord, il n'y a plus de piraterie le long des côtes anglaises, etc., ou même des côtes européennes, c'est fini. Donc, à un moment, quand il y a des États, avec une police, avec une marine permanente, c'est fini. Il n'y a plus de pirates.
C'est pour ça que vous dites que c'est un défi pour l'État. Parce qu'en fait, vous imaginez, avec tous ceux qui ont travaillé pour cet ouvrage, les pirates comme des détecteurs, pourrait-on dire, des failles étatiques. Ils sont là pour pouvoir dire l'État ne fait pas son travail jusqu'au bout, d'une certaine façon. Ou les États, ou l'Assemblée des États ne le fait pas. Et donc, l'intelligence humaine, y compris dans ce mal qui peut être provoqué par la piraterie, s'insinue dans ces failles des États, Michel Battesti.
Bien sûr, c'est toujours, de toute façon, pour qu'il y ait piraterie, il faut qu'il y ait du droit. Sinon, c'est ouvert, c'est la loi de la jungle, quoi. Donc, c'est à partir du moment où il y a du droit. Et donc, il y a des États qui ont profité par exemple, en Méditerranée, c'est très clair. Vous aviez deux côtés de la Méditerranée, des complicités. Et du jour où, en Méditerranée, les États ont dit, mais non, c'est fini. Napoléon, en 1803, avait proposé, alors qu'on était en guerre avec l'Angleterre, un accord pour éradiquer la piraterie barbaresque. Évidemment, ça pouvait pas marcher.
Les États-Unis étaient déjà venus.
Mais
aussi,
les États-Unis vont venir, vont envoyer leur marine, en l'occurrence 2 frégates.
Ouais.
Et ça reste dans les champs des Marines, avec Tripoli, etc. C'est pas le Tripoli de maintenant, c'est le Tripoli de cette époque, etc. Donc, et puis à un moment, il y a cet accord, et surtout il y a effectivement 1830, le jour où la France prend possession libération d'Alger, c'est fini. Il y aura encore une piraterie un peu sur les côtes résiduelles, sur les côtes du Maroc, mais bon, on en verra à ce moment-là les escadres, hein, c'est fini quoi.
Anaïs.
Oui, Michel Battistier, on comprend bien l'intérêt d'une action concertée des gouvernements et des nations, mais vous soulevez un problème qu'on a déjà très légèrement abordé au début de cette discussion, qui est le problème qu'on a du mal à condamner les pirates.
Oui, alors ça,
curieusement,
c'est très étonnant. Le pirate, alors. Je sais pas si vous avez, vous allez dans des restaurants et tout, vous trouvez des menus le pirate, vous trouvez des, il y a les jeux, etc. Il y a une espèce d'aura qui entoure le pirate.
Une aura romantique, d'ailleurs.
Romantique, bien sûr.
Bah, grâce aux récits, généralement, du 19e siècle. Beaucoup
Alors, c'est le phénomène est apparu aussi dans la littérature romaine.
Ah oui.
Dans l'Antiquité. C'est-à-dire le jour où la piraterie a été éradiquée, presque éradiquée, c'est pas vraiment vrai, en Méditerranée, ou même elle a continué à survivre dans les mers périphériques, en mer Rouge, Haute Pline, sans plein. Et ben de ce jour-là, ils viennent d'un personnage de roman.
Mais l'outil de droit est influencé par cette image romanesque du pirate qui empêcherait de trouver des outils législatifs capables de condamner les pirates.
La population, des fois, a pris fait et cause pour la piraterie, pour les pirates.
Donc vous dites qu'on manque de témoignages, on manque de d'arguments.
D'abord, il faut les attraper. Et puis, objectivement parlant, quand les États commencent à décider, par exemple au XVIIIe siècle, là on a toute une florescence de ce qu'on appelle vraiment la piraterie, c'est-à-dire vraiment les barbes noires, etc. C'est là qui prospèrent, mais ils prospèrent 3-4 ans. Hein. Mmh. C'est-à-dire, ils sont immédiatement pris par les flottes de guerre. Et ils sont
C'est
exécutés.
Un métier dangereux.
Ah, très très dangereux. Même maintenant, la piraterie, enfin jusqu'en 2011, la piraterie somalienne, les Nations Unies avaient dit qu'il y avait à peu près les deux tiers des pirates qui réapparaissaient jamais.
Oui,
ils partaient dans l'océan Indien et on les revoyait plus parce que de toute façon ils disparaissaient corps et bien quoi.
Et puis il faut dire que ça remonte très loin puisque par exemple dans les rôles d'Oléron, ces fameuses règles maritimes donc qui sont établies, je crois, c'est au 12e sous le temps d'Aliénor d'Aquitaine, on a le devoir d'assister les naufragés sauf s'ils ont commis des actes de piraterie. Donc en gros, on les laisse à leur malheur. Le naufragé qui est pirate peut rester à mourir contre les rochers ou sur les rivages, ça n'est pas grave, alors que les autres, effectivement, on a un devoir de secours, en l'occurrence,
Michel
Battisti.
Absolument, mais toute la difficulté, c'est de savoir... le problème majeur, c'est la définition. C'est quoi un pirate?
Ouais.
Parce qu'en fin de compte, on est toujours le pirate de quelqu'un. Quand les Sea Dogs de la reine Elisabeth étaient en train de courir après les galions espagnols, les Espagnols les considéraient comme des pirates. Évidemment, du côté de la reine, c'était des corsaires. Donc la nuance entre les deux, et ce sont les mêmes hommes qui pratiquent aussi bien la course que par la piraterie. Alors de temps en temps, c'est très difficile à séparer les deux mondes. Enfin, en tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle.
Vous avez qui est cette cote que pouvaient avoir parfois les pirates dans une opinion publique. Est-ce que ça n'est pas non plus l'idée du David contre Goliath, des petits bâtiments légers, rapides, beaucoup de courage, à faible terrain d'eau, très manœuvrables, montés par des hommes surarmés qui s'attaquent à des pétroliers croisant en océan Indien ou ailleurs. Mais dans le temps, c'était déjà le cas, c'est-à-dire cette idée que bien, c'est le petit contre les plus gros, c'est donc le débrouillard d'une certaine façon, même s'il appartient à des mafias, contre les États.
Bien sûr. Et puis, ils pratiquent la guérilla, donc c'est toujours le même phénomène, hein, c'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé. Le seul élément commun des pirates, quelles que soient les époques, c'est la recherche du butin et c'est pratiquer une sorte de guérilla.
Oui, sauf
et de
que
pouvoir attaquer toujours là. Où l'autre est le plus faible.
Mais vous dites bien, Michel Battisti, que finalement, ces butins, tous ces profits raptés par les pirates profitent très rarement à la terre.
Ah ben non, c'est une prédation.
Donc cette image de Robin des Bois, il faut vraiment en sortir définitivement.
Non, ce sont pas des gens sympathiques. D'abord, ils pratiquent la violence, ils font peur, ils torturent, et même maintenant, les pirates somaliens, là, c'était pas des enfants de cœur. Il y a eu des endroits où ils ont vraiment torturé les gens.
Et ils ont assassiné, comme on l'a rappelé.
Assassiné, et il y a même des gens qui reprendront jamais la mer à la suite du traumatisme qu'ils ont subi. Donc il faut aussi relativiser.
Merci Michel Battisti. Testi d'être venu présenter l'ouvrage que vous aviez dirigé, donc qui est paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne il y a 2 ans, La piraterie au fil de l'histoire, un défi pour l'État, alors de prédation. On va parler demain un autre type de prédation, non pas sur les humains mais sur les objets. Bonjour Carole Pyser.
Bonjour.
Vous avez réalisé pour La fabrique de l'histoire avec Renaud Dalmar un documentaire sur les pilleurs d'épaves, sur la plongée sous-marine et le combat qu'il y a entre plongée sous-marine d'État et tous ceux qui tentent leur chance en descendant au fond.
Ben, l'archéologie sous-marine, oui, c'est un sujet qui les pirates, ils ont été sûrement responsables pour certains des épaves qu'on trouve au fond de la Méditerranée. On a été obligé de limiter à la Méditerranée puisque le sujet c'est tellement vaste, il y a encore des milliers d'épaves à découvrir partout dans le monde, surtout en eau très profonde. C'est pour cela que on n'a pas été uniquement, on s'est pas limité aux épaves près de la côte. On est allé découvrir au large des épaves à plus de 500 mètres de fond, qui était une expérience fabuleuse.
Oui, en particulier du côté de Marseille, donc où il y a un siège d'archéologie sous-marine nationale, d'une certaine façon, et où on a parfois maille à partir avec tous ceux qui vont tenter eux aussi, beaucoup plus secrètement, d'aller chercher les épaves.
Exactement, parce que on a parlé, là j'ai entendu passer le mot droit romain, droit romain. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose en mer qu'à terre, c'est-à-dire que le trésor qu'on peut trouver à terre, c'est moitié au celui qui le trouve, à l'inventeur, moitié à l'État. Or, en mer, ce n'est pas du tout la même chose, c'est tout à l'État. Et c'est ça qui emmène au pillage.
Alors, on va écouter un extrait du documentaire que vous avez réalisé avec Renaud Dalmar, donc qui sera diffusé demain dans La Fabrique de l'Histoire.
Mettre l'échelle à l'eau ? Ouais.
L'épave sur laquelle on descend, là, les frémiers, c'est ce qui s'appelle Pompée Junquier Est. C'est une épave pour laquelle on n'a aucune image. Je n'ai que quelques mots qui me l'a dit Guido. C'est-à-dire que lui, il a vu des amphores à fond plat, qu'il a, pour lui, c'est des amphores gauloises.
Moi je vois quelque chose là. Faudra allumer les lumières s'il te plaît pour la caméra là, qu'on voit quelque chose là.
C'est quoi trouver une épave? On s'imagine que on va descendre en connaissant des archives et puis qu'on va trouver le bateau encore entier au fond de l'eau. Non, en réalité, la première épave, c'est un jour, dans un fond plat de vase, tu vois une anse d'amphore qui dépasse, tu vois un petit bout de poterie. La plupart du temps, tu vois un poulpe qui a fait une petite maison dans une poterie et tu te dis, ah, ça, c'est pas normal. Et finalement, c'est bien moins spectaculaire qu'on ne le pense.
Vous avez toutes sortes d'amphores ici qui sont très différentes, qui représentent 8 siècles en fait de navigation. Vous avez les plus anciennes qui sont par exemple, ça c'est une amphore massaliette, donc qui est du 5e siècle avant. Et puis vous avez celles-là qui sont des amphores espagnoles du 1er siècle après. Et vous avez là-bas des amphores africaines qui sont très 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 longues, cylindriques et qui sont du 4e siècle après. En général, on a tout ce mélange qui sont...
C'est franchement, c'est l'histoire de la Méditerranée là, que vous avez empilée ici.
Du début de l'archéologie sous-marine, absolument.
Alors, comment tu as trouvé ta première épave?
J'avais 6 ans de mémoire et c'était dans le sud de la Sardaigne, près de Porto Corralo.
Voilà donc un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé, Carole Peisser, avec Renaud Dalmar, et qu'on pourra écouter demain dans la Fabrique de l'Histoire. Mercredi, nous traiterons de la façon dont on peuple les rivages, et jeudi, nous nous poserons la question de savoir ce que la France a à voir avec ses eaux, son territoire liquide. Est-ce qu'il y a un problème particulier par rapport à ce pays et à son rapport à ses eaux et ses océans et ses mers? C'est donc la suite de notre série consacrée aux usages de la mer. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Jean-Guilain Mev était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter toute cette émission ainsi que toutes les autres sur le site internet franceculture.fr, nous suivre sur le réseau Twitter ou encore discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.